Bonjour à tous. Vous allez bien? Hey, je suis content de vous voir. C'est toujours difficile d'intervenir après des moments de recueillement comme ça. Tu veux rien casser. Permettez-moi juste de m'installer 30 secondes. Premier jour aujourd'hui, retour dimanche à l'église du CEP. J'espère que je n'ai pas perdu trop l'habitude pendant les vacances. Ça va? Ok, super. Donc, 11h30 presque, vous comprenez que c'est la rentrée, donc plusieurs choses à regarder. J'étais vraiment encouragé de voir le nombre d'enfants qu'il y a, de les voir devant nous et de voir tout ce qui prend place au niveau de la restructuration ou l'ajout des classes. C'est tellement une bonne nouvelle, tellement une bonne nouvelle. J'aimerais profiter aussi pour prendre le temps aussi pour remercier Philippe, Jean-Paul, Pierre, qui ont apporté le message les trois dimanches derniers. Vraiment, vraiment un gros merci. Dimanche passé, vous avez eu un message transition par rapport à l'année qui est en train de démarrer. J'ai eu l'occasion aussi d'entendre Jean-Daniel, Pascaline qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment de vous voir en chair et en os. J'ai entendu le petit résumé dimanche passé et je sais que vous aviez un événement hier soir, donc je me suis dit bon, peut-être que soit ils sont déjà partis ou ils vont profiter de la matinée pour rester au lit tranquillement. Je suis content de vous voir vraiment, puis on va s'organiser une prochaine fois pour que vous puissiez avoir la place pour pouvoir apporter le message. J'ai déjà entendu prêcher Jean-Daniel et j'avais été vraiment béni la fois où j'avais eu l'occasion de t'entendre de prêcher. C'est peut-être les seuls, si la réunion se poursuit d'ici les deux prochaines heures, c'est peut-être les seuls, Pascaline et Jean-Daniel, qui vont avoir un seuil de tolérance assez élevé au niveau de la durée du culte, parce qu'en Afrique, la durée du culte, à mon souvenir en tout cas, à moins que les choses aient changé, mais il me semble qu'elle est pas mal un petit peu plus longue que ce qu'on peut connaître dans nos pays en Occident. Le titre que j'aimerais vous apporter, le message de ce matin, s'intitule « Quand tout s'effondre ». Wow, quelle rentrée! « Quand tout s'effondre ». Comme diraient les jeunes, présentement, je suis en PLS. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, PLS, je pense que c'est la position latérale de sécurité. Ça veut dire que ça ne va vraiment pas bien. Et présentement, alors que je vous parle, je suis en PLS parce que ma tablette est à 40%. Et c'est une blague dans la famille parce que quand mon téléphone arrive à 75%, je commence à avoir un début de panique. Je me demande si à quel pourcentage est-ce que notre planète, notre environnement, notre humanité se trouve. Je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'on n'a pas des bonnes raisons d'être en PLS. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder. Imaginez quelques instants, imaginons que nous sommes les Gessiens, les 100 000 Gessiens du pays de Gex, depuis 1619, nous sommes depuis ce temps-là sous la domination cruelle et impitoyable des Genevois. Imaginons quelques instants, et que durant ces 400 ans, nous entendons de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, le récit de notre esclavage. Dans les moindres détails. Et imaginons quelques instants que nous sommes la dernière, que cette année, nous serons la dernière génération à avoir vécu, connu, subi l'esclavage. Parce qu'on nous annonce, vous allez être libres. Après 400 ans, cette histoire se répercute de génération en génération. Et 400 ans après, on nous annonce, là c'est bon, c'est la bonne année. Là. Cette fois, c'est vrai que vous allez être libres. Je crois que ça prendrait un niveau de foi énorme pour croire que c'est vrai. C'est exactement ce qu'Israël a vécu en Égypte, vous m'avez vu arriver. J'aimerais saluer chaque personne qui se trouve sur Internet, que ce soit en Afrique, en France, en vacances, peu importe. Je sais que plusieurs d'entre vous, hier soir, avaient eu des événements X, Y, Z, et potentiellement, vous allez écouter ce message, et j'aimerais vraiment vous saluer et vous dire, on prie pour vous aussi. Nous prions que ce message, pas seulement ce message, mais que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, peut-être présentement dans ta voiture, alors que tu entends ma voix. Peut-être que tu es dans ton bureau, peu importe, mais je crois que le Dieu que nous avons n'est pas limité par les frontières, n'est pas limité par le temps, et je crois qu'à l'heure que tu entends ce message, même en rediffusion, le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut déposer quelque chose sur ton cœur et t'encourager pour ce que tu traverses présentement dans ta vie. 400 ans d'esclavage. Exode chapitre 13, versets 21, 22. Voilà qu'ils sont libres. Pharaon les a libérés, a accepté de les laisser partir après les 10 plaies. La dernière était la mort. Je vous rappelle que ce qui a épargné Israël de la dernière plaie, la mort, c'est parce qu'il y a un agneau pur et sans tache qui a été le sang de cet agneau qui a été mis sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange de la mort passait, eh bien, il passait par-dessus parce que c'était le signe que Dieu avait choisi pour protéger son peuple. Et voilà que Pharaon, le grand Pharaon, décide enfin de laisser aller Israël dans sa marche, dans sa liberté, dans sa destinée. Et nous lisons à partir du verset 21, Exode chapitre 13, verset 21, l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Et la colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Je lis dans la version Bible du Sommeur. La colonne de nuée se trouvait en permanence à la tête du peuple. Jour et nuit, il y avait une colonne de nuée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. Dieu a toujours été à la tête de son peuple. Il a toujours conduit son peuple dans tout son processus de marche. Et là, on va voir aujourd'hui un Dieu qui est présent, un Dieu qui ouvre et qui ferme notre marche. Alors que nous sommes dans cette saison de rentrée, dans ces dernières semaines, les derniers jours, nous sommes dans cette saison de rentrée, de remise en route, de retour à l'école, au lycée, aux études, au travail ou dans nos réalités de vie quotidienne. Peut-être que tu es toujours au chômage, mais il y a une rentrée qui se fait là. J'aimerais qu'on puisse se laisser encourager par la parole de Dieu qui nous rappelle que le Dieu que nous avons, il ouvre et il ferme notre marche. Exode chapitre 14, verset 10, on continue. Le Pharaon, tout à coup, là je saute quelques versets. Le Pharaon s'était rapproché. Parce que là, il change d'avis, il dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé partir, mais quel imbécile, quel fou! » Il change d'avis, il revient sur sa décision et part à la poursuite du même peuple qu'il a accepté de laisser partir. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel, puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avons bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous, quelle horreur cette phrase, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Alors que Dieu, à travers Moïse, a dit « Laisse aller mon peuple », il y avait un peuple qui disait « Non, non, laisse-nous être en esclavage en Égypte. On préfère être ici que de mourir dans le désert. » L'angoisse. « On préfère être ici que de mourir dans le désert. » Cet événement qui relate le départ des Égyptiens, des Israélites, de cet esclavage, c'est un événement qui a eu lieu. Mais il y a aussi une seconde dimension qui est une préfiguration de ce que Christ est en train de se préparer à faire. S'ils ont été libérés et protégés grâce à cet agneau étendu sur les linteaux des portes, eh bien cette traversée va préfigurer ce que Dieu va faire à travers Christ. L'Égypte, c'est un vrai endroit, un vrai peuple, un vrai régime qui a eu lieu. Mais il y a une seconde dimension qu'il faut capter ici, c'est que l'Égypte représente, pour ceux qui sont moins familiers, je prends la peine de le préciser, pour ceux qui sont moins familiers au passage biblique, l'Égypte représente cet ancien régime de vie, on l'a entendu ce matin un peu durant la Sainte-Cène, représente cette vie d'esclavage spirituel dans le péché, avec la conséquence, pour conséquence, la mort, une mort éternelle. Cette Égypte représente tout cet ancien régime, cette ancienne façon de penser, cette ancienne façon de vivre, d'agir, de se comporter. Et Israël, oui, est en train de tirer, de partir de cet endroit géographique, mais ultimement, il y a quelque chose d'autre que le Seigneur est en train d'annoncer, est en train de dire. Un jour, il y a un peuple complet qui va sortir, il va partir non pas de l'Égypte, non pas de cet ancien régime politique, mais d'un ancien régime, d'un régime spirituel qui nous retient captifs dans nos pensées, dans nos émotions, et s'appelle le règne du péché et du diable dans nos vies. Et c'est important de le comprendre, ça, parce que c'est le contexte de cet épisode-là. Et remarquez, je fais une petite parenthèse, remarquez que là, ils voient les Égyptiens arriver, Israël commence à avoir peur, avec raison, et commence à crier sur Moïse, « Moïse, Moïse, qu'est-ce qui se passe ?» Et si vous regardez le prochain verset, il va dire, est-ce que je l'ai ici ? peut-être je l'ai ici. Voilà. Ok, on va le revoir le prochain verset, parce que c'est la petite parenthèse. Moïse va à son tour se tourner vers l'Éternel, et l'Éternel va lui dire, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu cries vers moi, Moïse? Pourquoi cries-tu ainsi? Voici ce que tu vas faire, tu vas lever ton bâton, et la mer va se fendre en deux, et vous allez traverser. La parenthèse est la suivante. Lorsque nous nous trouvons dans des situations de vie où ta femme te crie sur toi, entre guillemets, crier, commence à se plaindre, ouais, pourquoi ceci? Ou ton mari fait la même chose, ouais, pourquoi ceci? Ou tes enfants font la même chose, ouais, pourquoi ceci? Ou tes parents font la même chose, ouais, pourquoi ceci? Tourne-toi vers l'Éternel, et l'Éternel va dire, pourquoi est-ce que tu cries à ton tour? Il va t'entendre et dire, voici maintenant ce que tu vas faire. Apprenons à consulter le Seigneur dans chaque situation. Moïse aurait pu se lamenter sur son sort, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, il crie sur moi, à mon tour de crier sur toi, et à son tour de lui parler. Il va dire, ok, regarde, calme-toi, voici ce qui va se passer. Tu vas tendre ton bâton, puis vous allez traverser la mer à sec. Je crois que nous avons besoin de développer dans notre vie de tous les jours ce réflexe à consulter l'Éternel et à ne pas chercher à marcher par nos propres stratégies et nos propres forces. Laisse-nous tranquilles, mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'on préfère vivre en esclave que mourir libre. Et parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. Des fois, il y a des situations dans nos vies où on se dit, ouais, mais pourquoi? Ah, c'est dur d'être chrétien, c'est dur de marcher selon ce que je sais que je devrais. Et on n'est pas dans la loi, mais quand même, on aspire à être cohérent dans notre foi. C'est dur, Seigneur. Il me semble que c'était plus facile avant. Je vous le confirme, c'était tellement plus facile avant. Pour moi, c'est tellement plus facile. Tu as juste à te laisser flotter dans le courant. Tu chilles. Ouais, mais allez, les conséquences aussi, tu chilles après. Hein. Tu souffres après. Là. Tu chilles moins, plus tu chilles moins. Tu souffres. Et oui, c'est plus facile. Et parfois, mon point est le suivant. Parfois, suivre Jésus est synonyme de mourir dans le désert. Parfois, en fait, en règle générale même, il va le dire, celui qui veut me suivre, il faut que tu meurs à toi-même, sinon il n'y a même pas un pas qui va se faire à la fois. Tu peux pas. Si tu veux me suivre, il faut que tu meurs à toi-même, il faut que tu meurs à tes émotions, il faut que tu meurs à tes passions, il faut que tu meurs à tes intérêts, il faut que tu meurs. C'est une mort. Et suivre Jésus est synonyme, et des fois on le vit plus, de façon plus forte qu'à d'autres moments, est synonyme de désert. Mais dans ce désert-là, Jésus t'attend. Jésus est là, c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Je crois, on parle beaucoup de la foi, hein. La foi c'est un sujet qui est tellement large, mais je crois qu'on a besoin de demander au Seigneur de faire grandir notre foi dans sa fidélité. Dans sa fidélité. Et lorsque j'entendais les prières de plusieurs d'entre nous ce matin, je dis, en fait, j'ai pas besoin de prier parce que je pense que tout est déjà acquis. Belle prière de reconnaissance et de gratitude. Mais en même temps, on a tellement besoin aussi de se faire rappeler qu'on a, nous avons un Dieu qui est fidèle. Fidèle. Exode chapitre 4, verset 13-14. Voici ce qui se passe, on continue. Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. » On aurait pu appeler ce message plutôt que quand tout s'effondre. « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Wow! Sachant que les Égyptiens représentent ce régime de péché, ce régime d'esclavage spirituel, pour tous ceux et toutes celles qui ont dit « Seigneur, moi je crois que tu es celui qui a le sang parfait, qui a le sacrifice parfait pour me donner la vie éternelle, je crois que tu m'as libéré, j'aimerais te dire que cet ennemi-là, plus jamais !» Yes, c'est fini! Pas une fois de temps en temps, plus jamais! Nous sommes libres! En Jésus, nous sommes libres! Vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Version, vous diront même, demeurez dans le silence. Et c'est là qu'on voit au verset 15 et 16 que j'ai dit tout à l'heure dans la parenthèse où l'Éternel va se tourner vers Moïse et on va poursuivre la suite. N'ayez pas peur et demeurez dans le silence. J'aimerais prier. Seigneur, je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton réconfort. Merci pour ces premiers pas dans la rentrée. Merci pour tout ce que tu es. Et je prie pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, que nous soyons ici dans ce lieu ou à travers les réseaux. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne apaiser celui ou celle qui est dans l'angoisse. Je prie que celui qui est envahi par le doute soit, Seigneur, rempli de cette espérance solide et ferme qui vient de toi. Je prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est affaibli dans son corps puisse être renouvelé dans ses forces physiques. Je prie, Père, que là où il semble ne pas y avoir de chemin, il semble ne pas y avoir d'issue, je prie qu'un chemin puisse s'ouvrir. Seigneur, nous avons d'une certaine façon levé, comme Moïse a levé son bâton, nous avons levé nos voix, nos instruments, notre prière, et je veux lever ta parole ce matin afin qu'un chemin s'ouvre dans nos cœurs, qu'un chemin s'ouvre, Seigneur, dans les situations que nous traversons. Sois celui qui nous accompagne, peu importe la façon, que ce soit en traversant, en contournant, mais Seigneur, viens changer notre perception intérieure de ce que nous vivons à l'extérieur. Amen. Amen. Quand tout s'effondre, nous avons un fondement solide, Jésus-Christ, le Seigneur. Quand tout s'effondre, c'est là que tu sais où sont tes fondements. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Il m'arrive aussi d'avoir, au-delà de ma tablette qui tombe en décrépitude énergétique, j'ai à certains moments de ma vie des peurs, des craintes. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Et là, on va assister à l'événement où c'est d'une certaine façon la réponse de Dieu au cri du peuple, au cri de Moïse. On a fait une série là-dessus sur la puissance de la prière, l'art de la prière. Et là, on va voir, boum, le miracle. Les eaux vont s'ouvrir, comme sur la photo qui va apparaître ici, tirée de ce profil Instagram, humour.du dimanche. Et voici si Moïse, c'est écrit pour ceux qui nous suivent, vous n'avez pas le visuel, si Moïse avait divisé la mer en deux au 21e siècle. Voici à quoi ça ressemblerait. Nous avons la mer séparée en deux et au milieu, nous avons plein de déchets, de poubelles, de plastique. Bref, un message sur l'environnement. J'ai, durant les semaines qui viennent de passer, ça fait quelque temps que je baigne dans ces termes, tension des flux, migration des masses, stress hydrique, mouvement populiste, transhumanisme, empreinte écologique, industrie agroalimentaire, crypto-monnaie, inégalité sociale, bulle financière, collapsologie. Ça, c'est la plage sur laquelle j'étais dans les dernières semaines. Je me suis baigné là-dedans. Et j'ai jamais été un pro-environnementaliste, etc. Et je trouve toujours délicat de parler de ces sujets-là, d'autant plus qu'en passant, je suis conscient qu'il y a tout un mouvement de lobbying en arrière de ça. Il faut tenir ça aussi en considération. Mais j'ai voulu me pencher sur la question et voir un peu jusqu'à quel point est-ce que c'est sérieux, etc., etc. Et vous apprendriez certainement rien du tout si quelqu'un arrivait à votre porte demain matin en vous disant « Coucou, bonjour, non, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je viens juste vous dire que le monde va mal ». Je le savais déjà. Il n'y a rien de nouveau. Mais je me suis penché sur la question parce que c'est des commentaires, on voit un petit peu, c'est un peu, il y a un mouvement qui est derrière ça, je l'ai dit, il y a un lobbying en arrière de ça aussi, mais il y a des vraies réalités qui sont là. Et je me suis penché sur la question pour voir et m'apercevoir qu'en fait, qu'il y a dans différentes conversations, chrétiens, non-chrétiens, dans différents groupes, de plus en plus, en fait, on entend ce discours de « ça va mal, la planète va mal », etc. Et en fait, oui, c'est vrai que ça va mal. Je crois que comme chrétien, on a besoin de se rappeler que le Dieu que nous avons est un Dieu qui ouvre et qui ferme notre marche. C'est un Dieu qui n'a jamais été déstabilisé par les mouvements politiques, économiques et quoi que ce soit, et qu'on a besoin de savoir que Dieu est encore là. J'aimerais vous montrer un petit vidéo. Je vais juste préciser ceci dans la suite de ce message-ci. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un climatologue, je ne suis pas un scientifique, je suis juste un pasteur, tout simplement. Et mon souci, mon fardeau principal, c'est de déjà pour ma vie personnelle, de ne pas perdre la foi dans mon Seigneur, et de si possible, être un instrument utile pour encourager qui le veut bien à ne pas perdre sa foi. Et comment réagir dans les moments difficiles? Alors, c'est plus l'aspect spirituel que j'aimerais relever. Je ne vais pas, si jamais vous aviez vu les posts et que vous vous attendiez peut-être aujourd'hui à entendre des stratégies, des propositions d'ordre survivaliste. Non, je ne pense pas que ce soit mon rôle. Je pense que c'est à chacun d'agir comme il pense que c'est le mieux d'agir par rapport à ce qui s'en vient. Parce pourquoi je dis que je pense que c'est pas mon rôle? Parce que en fait, on a chacun, on a la même destinée. Hein, on va tous au même endroit. En tout cas, j'espère. On veut rejoindre Jésus, mais on a des chemins différents. Là, je fais pas allusion à Jésus et le chemin, la vérité et la vie. C'est pas de ça que je parle. On a des parcours de vie différents. La preuve, mon parcours de vie est complètement différent du tien et vice-versa. Donc le Seigneur a des plans pour les uns et pour les autres. Et je ne suis pas là pour commencer à dicter ou influencer sur comment se comporter par rapport à ce qui va venir. Mon souci principal, c'est notre foi. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on réagit déjà présentement dans ce que nous traversons? Alors, collapsologie, on peut se dire, c'est quoi le lien entre Moïse, à part la note humoristique qui sépare les eaux et qu'il y a des déchets à l'intérieur, quel est le lien entre Moïse qui traverse les eaux, entre Moïse, l'écologie, l'Église, la collapsologie? La collapsologie, pour vous le définir rapidement, c'est un terme qui veut simplement dire tomber en seul bloc, en un seul bloc. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la collapsologie. C'est l'étude de l'effondrement des sociétés et des civilisations vidéo.
On ne peut pas nier maintenant qu'il y a des catastrophes. Enfin, il suffit de voir la climatologie, la finance, l'économie, la biodiversité, l'énergie, etc. Et à chaque discipline cloisonnée, en fait, annonce des catastrophes, passées, présentes, futures. Et en fait, l'idée de la collapsologie, c'est de faire une sorte de synthèse scientifique, la plus scientifique possible, de ces risques d'effondrement, de ces menaces, et de ces dynamiques, etc., de creuser la question des grandes catastrophes et des effondrements. Comment on dit à quelqu'un que sa maison est en train de brûler? Il y a une sorte de sidération, on est tranquille là et tout l'univers se brise. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'y crois, est-ce que je comprends ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Vite, il faut faire ça, on est perdu. Et donc, il y a toute une sorte de différents stades de ce qu'on pourrait appeler un deuil, en fait. Entre le déni, non, mais il n'y a pas d'incendie, laissez-moi voir la télé, jusqu'à colère, tristesse et acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire j'accepte que la biodiversité disparaisse, que le climat, que c'est foutu, qu'il y a des catastrophes, dans une sorte de « il n'y a plus rien à faire, on finit notre vie au bistrot ». Ce n'est pas ça la phase d'acceptation du deuil. Ça veut dire « je suis conscient de ce qui se passe, j'ai traité l'information, il y a des émotions qui sont là, j'ai aussi accueilli, maintenant je suis prêt à faire face et à agir ». Le mot effondrement résonne avec notre imaginaire en film de zombies, Mad Max, on va tous s'entretuer. Ça peut être ça. Ça peut écraser l'avenir, écraser l'horizon du futur. Et c'est l'écueil qu'il faut éviter. Il faut faire en sorte, il faut arriver à trouver les ressources pour que ces récits qu'on se raconte réouvrent le champ des possibles et n'écrasent pas l'avenir. Et on peut raconter un effondrement, on peut raconter aussi une renaissance, quand un grand arbre tombe, il y a des jeunes pousses. On peut raconter de différentes manières ces catastrophes pour qu'elles ouvrent des nouvelles perspectives.
La perspective que j'aimerais qu'on puisse ouvrir ou vraiment voir, c'est la perspective de notre foi. La perspective de notre foi. Comment être réaliste sans être fataliste? Comment être optimiste sans être idéaliste? C'est des sujets de société qui, je crois, valent la peine d'être abordés. Drôle de sujet pour une rentrée, mais en même temps, c'est des sujets que l'on entend parler de plus en plus, que ce soit dans les journaux ou autour de la machine à café. Et je veux vraiment faire attention. En 1988 ou 80, dans ces années-là, il y a un livre qui était sorti sur les 88 raisons de la fin du monde, puis on est encore là. À chaque époque, à peu près, il y a « c'est fini, c'est la fin ». Puis on est encore là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est que faisons attention aux déductions que nous tirons par rapport aux événements que nous vivons. Ceci dit, soyons réalistes et préparons-nous aussi de façon spirituelle. C'est sûr qu'on est toujours là, mais c'est un peu le symptôme du gars qui saute 50 étages sans parachute puis qui se dit à chaque étage qui passe, jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va. Boum. Et je suis surpris de voir comment est-ce que des croyants, des chrétiens, sont même surpris d'entendre ce qui se véhicule? Ça me dépasse. Je parle de chrétiens de longue date. Et moi, je crois que comme chrétien, Nous pouvons être réalistes sans être fatalistes. Je crois que nous pouvons être optimistes sans être idéalistes. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. On parle de l'effondrement, j'ai regardé, puis effectivement, il y a différents stades pour être un peu maintenant dans l'aspect plus réaliste. On peut regarder la prochaine diapo. Il y a un livre qui a été écrit par Dimitri Orlov et qui décrit les 6 stades d'effondrement. Financier, donc tout l'aspect de l'insolvabilité, commercial, le non-approvisionnement, donc la tension des flux. Hein. Paris, en 3 jours, est à terre, si les ressources sont coupées pour des raisons énergétiques ou autres. Politique, perte de confiance, ça, c'est pas nouveau, puis ça va en s'empirant. Social, ça, c'est tout l'aspect de l'organisme, les organismes qui sont en manque de ressources, organismes à but non lucratif qui sont là en aide. Culturel, c'est toute la notion de la perte du sens humain. C'est Winston Churchill qui a dit qu'entre la démocratie et la barbarie, vous savez ce qu'il y a entre deux ? 5 repas. Voulant dire par là que quand on commence à crever de faim, on perd notre civisme, on perd notre « tu aimeras ton prochain comme toi-même » parce que tu es en mode de survie. Pour nous, c'est des sujets en pays occident qui sont relativement comme « wow ». Il y a des pays qui sont déjà dans cette situation depuis des années. Pas plus tard qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire au Burkina, je pense, quelqu'un qui a été massacré à coups de machette. Et puis, moi, ma question, c'est est-ce que j'aurais gardé ma foi là-dedans? Et comme pasteur, je me dis, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que l'Église garde sa foi? Et je m'inclus dans l'Église. Écologique, dernier stade, épuisement des ressources. On nous dit que la mondialisation a créé ce que l'on appelle, c'est un nouveau terme, le risque systémique global. C'est ce que l'on parle. Quand on parle de collapsologie, quand on parle d'effondrement, on parle d'un effondrement systémique. Parce que c'est nouveau, nous fonctionnons sur une civilisation mondiale, globale, où tout est interdépendant. Le contraire de l'autonomie, nous sommes venus hétéronomes. Nous sommes interdépendants, il y a l'effet domino, l'effet contagion, touche à un de ces aspects-là. Et même ces experts-là vont dire, ce que, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas quelle va être l'étincelle, mais ce que l'on sait, c'est que c'est comme si ces aspects-là, finance, commerce, politique, sociale, culturelle, écologie, injectaient du gaz dans une même pièce, dans la grande chambre de l'humanité. Et ce qu'on sait, c'est que le gaz est en train de s'accumuler et qu'il suffit d'une étincelle. On ne sait pas laquelle. Est-ce qu'elle va venir par l'écologie, l'économie? On ne sait rien, mais on sait qu'il suffit d'une étincelle. Boum, on le sait, ça c'est clair. La question n'est plus est-ce que ça va arriver, la question est quand est-ce que ça va arriver. La vraie question, elle est là. C'est juste qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Ce qu'on sait, c'est que la situation est réaliste. Là, je suis en mode réaliste, mais on va revenir pour ne pas être fataliste, mais quand même, soyons réalistes. Ce que l'on sait, approximativement, encore une fois, on met pas de même les experts, on n'est pas Jojo Savard, on n'est pas des voyants, mais au niveau des études qui sont faites de multiples expertises scientifiques, économistes, climatologues, etc., ce que l'on sait, c'est qu'il y a une fourchette large qui est la génération, la décennie 2019-2020, on parle de la prochaine décennie jusqu'à 2030-2035, le monde va connaître des changements qu'on n'a jamais connus, et on les vit déjà, ces changements. Et là où certaines personnes, c'est ce qu'ils expliquent aussi, c'est lorsqu'on parle d'un effondrement, on pense que c'est un moment donné où, pouf, c'est demain ou l'année prochaine, tout va s'effondrer. Non, non, l'effondrement, c'est un processus et on est déjà dans cet effondrement. L'humanité est comme une immense grenouille dans la marmite tiède. On est déjà là-dedans, mais on ne le réalise pas. Je veux faire un lien pour nous qui sommes chrétiens dans notre vie spirituelle, mais on ne réalise pas. On ne réalise pas qu'il y a actuellement 50% de la population vertébrée qui a disparu. On ne réalise pas qu'il y a 80% des insectes qui ne volent plus en Europe. On ne réalise pas qu'il y a 30% des oiseaux qui sont... On ne réalise pas que le gars qui faisait sa pêche récoltait 6% alors qu'il y avait 80 à 100% il n'y a pas si longtemps. On est là-dedans et c'est normal. On ne réalise pas que notre prix d'essence, on le paye 3 fois, 4 fois qu'il y a à peine 10, 15, 20 ans en arrière. On ne le réalise pas, puis ça fait partie de la vie tous les jours. On est une immense grenouille dans la marmite de l'humanité. Et les chrétiens sont dans cette situation-là. Et certains chrétiens sont en mode panique en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une étude, on l'a demandé en 1970, on a demandé à une équipe de 4-5 personnes de créer un modèle de simulation informatique de notre système Terre nommé World 3, World 3, reposant sur les systèmes alimentaires, industriels, démographiques, pollution et ressources renouvelables. C'était demandé par le Club de Rome, qui traite 52 pays avec des experts de 52 pays industrialisés, des scientifiques, des experts. Et à ce moment-là, la tendance, l'analyse qui avait été faite en 1970, il faisait une projection sur 2019-2020. En ce moment, on n'est pas pile dessus, mais on est dans la fourchette. On est dans la fourchette. Quel rôle, peut-être ça vous fait peur, n'ayez pas peur. Je reviens à ça. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Pourquoi? Quel rôle avons-nous comme Église dans notre société actuelle, à travers la terre? Comment être réaliste sans fataliste? Quel rôle jouer? Quel rôle jouer? N'ayons pas peur. Et le miracle qui impressionne la majorité, moi le premier en tout cas, lorsque nous voyons la traversée d'Israël dans la mer Rouge, notre focus est, on les a vus les films, hein, à droite et à gauche, waouh, la mer qui se sépare en deux, ce n'est pas le miracle! Ce n'est pas le miracle! C'est pas ça le miracle! Si je suis un expert économiste, un comptable agréé, le meilleur qu'il y a sur la planète, puis que tu me donnes ton compte et tout ça, puis j'arrive, est-ce que c'est extraordinaire? Non, c'est normal, je t'ai formé pour ça. Tu n'as aucun mérite. C'est ta job, c'est ta nature. C'est dans la nature de Dieu de créer ces choses-là. Ça nous impressionne à nous, pas Dieu. Vous savez-vous où est le vrai miracle? Le vrai miracle, c'est pas que la mer se soit séparée, c'est qu'il y a un peuple qui a pu traverser. Le vrai miracle, c'est qu'il y a un peuple qui a pu être libéré de son esclavage géopolitique de cette époque-là et qu'aujourd'hui, on sait qu'à travers Jésus-Christ, je suis libre de tout péché, je suis libre de la mort, je suis libre de tout ça. C'est ça le miracle. Il est là le miracle. Le miracle, c'est que Dieu ait accepté de bien vouloir ouvrir un chemin pour laisser passer le petit Philippe, tellement pécheur, tellement tordu, tellement sale. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'il t'ait sauvé. Le miracle, c'est que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il est là, le miracle. Que nous puissions avoir foi en sa fidélité. Foi en sa fidélité. Si nous pouvions prendre un télescope qui regarderait depuis la Lune, la planète Terre, mais pas en termes géographiques, mais qui pourrait être capable de détecter la carte du temps, la carte spatio-temporelle, nous pourrions suivre, comme on voit le mur de Chine depuis la Lune, nous pourrions suivre cette carte temporelle, nous pourrions suivre à la trace d'un peuple avec lequel Dieu a marché, où de temps en temps, à un moment donné, il était devant, à un moment donné, il était derrière, il a toujours été là. Si on pouvait regarder de nos yeux avec un infrarouge la carte temporelle depuis toute l'histoire où Dieu a conduit son peuple, nous verrions un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui n'a jamais abandonné, un Dieu qui a pardonné, un Dieu qui est là, un Dieu qui est présent. Et les pays qui sont dans la persécution, on pourrait prendre mon micro et puis dire « Gars, voici ce que tu dis, je le vis déjà, je n'ai pas besoin d'attendre un effondrement, dans ma vie, je le vis déjà, il y a un Dieu qui ouvre, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'ayons pas peur. » Exode chapitre 14, verset 21, il faut que j'avance parce que là, sinon on va aller dans la grande salle du frigo en bas. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ah, il me semble que je ferais bien le cul dans la salle du frigo, moi. » Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est. Il a travaillé, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites, verset 22, passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. OK, waouh. On est d'accord, c'est pas le vrai miracle, c'est pas les eaux. Mais quand même, les mêmes eaux qui devaient les engloutir, parce que... Et il est où le lien avec ce que je partageais tout à l'heure, avec le graphique de Moïse devant la mer Rouge? En ce moment, l'humanité, c'est comme ça qu'elle se sent. Je généralise, peut-être pas tous les êtres humains, mais beaucoup se sentent comme ça. Se sentent comme avec la réalité de leur vie quotidienne, pression financière, pression familiale, dépression, maladie, etc., etc. Et comme si ce n'était pas assez, boum, la nouvelle arrive, OK, vous n'avez plus que pour très peu de temps. Et là, tu es devant un mur, collapsologie, effondrement, et là, on sent avec toute notre vie habituelle que l'on traîne derrière, émotion, maladie, tout ce que j'ai nommé, et bam, là, on est comme devant un mur, et les gens, à tel point qu'ils vont dire, la question, c'est quand? Et on est pris entre deux murs, sans aucune solution. Il est là le lien. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La mer ne s'est pas ouverte. lorsqu'ils ont quitté, après un kilomètre de marche, Égypte. Même, non, la mer s'est ouverte quand ils sont arrivés. Il a fallu faire un pas à la fois. Et j'appelle ça le pas de la foi. La mer s'est ouverte. Dieu est intervenu. Et ces mêmes eaux, ils sont là, frappés devant cet océan. Ce qui devait les engloutir, ce qui devait les foudroyer, les terrasser, les anéantir à jamais, est devenu, Dieu l'a transformé comme un rempart, une muraille de protection. Ils traversent, les Égyptiens veulent suivre, on connaît la suite du récit, les eaux se referment. C'est devenu leur source de protection. Ce qui devait les tuer, les a sauvés. Oh! Qui c'est qui a dit que c'est ennuyeux de suivre Dieu? Wow! Et je crois, peu importe quand, comment, quoi, que notre rôle en tant qu'Église, c'est de prendre conscience que plus que jamais, que nous allons connaître des moments difficiles, ténébreux, horribles, comme d'autres, en passant à se rappeler, le vivent déjà depuis des années dans certains pays. Mais je crois que nous allons parallèlement avoir l'occasion de briller comme on n'a jamais brillé de notre vie. Parce que quand tout s'effondre, il demeure le fondement. Quand tout s'assombrit, il demeure la lumière. Quand tu es dans la confusion, il connaît le chemin. Il ne change pas. Et alors que nous traversons les réalités de notre vie, tu arrives à la machine à café et que tout le monde est en mode PLS dépressif, extrême, parce qu'il n'y a aucune solution, parce qu'il y a d'un côté les Égyptiens, façon de parler, et la mer, toi tu arrives et tu dis « Oh !» Tu n'es pas en mode idéaliste, tu n'es pas en mode irréaliste, et oui, c'est vrai, ça va mal, mais comment ça se fait que tu es si paisible? Ben écoute, maintenant que tu en parles, je ne voulais pas t'en parler parce que je ne voulais pas te forcer, t'imposer ou quoi que ce soit, je ne connais pas tes positions là-dessus, mais en fait, moi, je crois qu'il y a un Dieu dans cet univers. Puis régulièrement, ben, je me confie à lui. Puis je vais être franc avec toi, il y a des fois, oui, je suis dans l'angoisse, j'ai peur, je peux même pleurer. Puis d'être assez authentique, pour être chrétien, c'est pas dire « Ah, oh, ça va bien parce que Dieu est vivant ». Non, non, être chrétien, c'est être authentique. Je suis un être humain. Si je suis dans l'angoisse, je vais pas avoir peur de dire « Je suis dans l'angoisse ». Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est vrai, j'avoue qu'il y a des fois, je suis dans l'angoisse, je peur. Mais ce que je fais, directement, je vais vers celui qui a non pas levé le bâton de Moïse, mais celui qui a levé le Fils de Dieu au milieu de cette humanité pour ouvrir un chemin que personne ne peut fermer. Et là, les gens vont commencer à dire « Oh, ok, tu ne me parles pas d'une... C'est quoi, c'est pas une religion, là. On est ailleurs, là. Ça m'intéresse. » Il y a un vrai témoignage qui est là. Témoignage solide. Ça, c'est l'effondrement. J'aimerais te dire, pour revenir à notre réalité de tous les jours, je priais pour vous hier soir et cette semaine. Pour certains d'entre vous, votre défi, c'est retour à l'école, où je sais, il y a certains jeunes, votre année scolaire va être plus demandante en termes d'horaire, en termes de travail, en termes d'exigence à tous les niveaux. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Dieu va t'ouvrir un chemin, il va te donner l'intelligence, l'intellect, la mémoire, le savoir que tu as besoin. Va, rentre demain au lycée, aux études, à l'apprentissage, à l'université, au boulot, avec une assurance ferme, un pas à la fois, puis tu te mets devant ta page de devoir, devant ton examen, et Dieu va t'ouvrir ce que tu as besoin pour traverser. Vous allez retourner en Afrique, certainement, ben, mardi, je pense, hein. S'il est parvenu avant, ça serait extraordinaire. Ben, ça dépend pour qui. Et vous avez des défis, vous avez des... Mais Dieu va continuer à ouvrir un chemin. Certains d'entre vous, vous avez des défis au niveau de votre santé, au niveau de votre relation. Je crois que le Dieu que nous avons est un Dieu qui peut ouvrir un chemin dans ta un chemin nouveau dans ta relation de couple, un chemin nouveau dans ta marche de pureté pour l'éternel. Et là, on est en souci de comment est-ce qu'on va vivre. C'est plus que jamais, approchons-nous de Dieu qui purifie nos cœurs, qu'on soit un exemple, qu'on marche dans sa pureté, dans sa sainteté et qu'on brille comme on n'a jamais brillé de notre vie. C'est ça qui est important. Les Israélites, verset 22, passèrent au milieu de la mer sec sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite. Ils ont traversé. Et je veux terminer maintenant pour nous, notre focus, il est où? Tes derniers témoignages, ça dure 3 secondes même pas.
Puis on est encore dans cette ambiguïté où on pense que c'est un simple problème environnemental. Moi, j'entends encore tout le monde me dire « faut sauver la planète ». Mais la planète, elle s'en fout. C'est l'humanité qu'il faut sauver. La planète, elle s'en remettra.
Alors, encore une fois, ok, lobbying, machin, mais c'est des mots qu'on entend partout. Il y a des croquis qui disent « sauvons la planète », puis tu as des caricatures. Non, éradiquons la race humaine, la planète se portera mieux. Ça, c'est le genre de... ou sauvons les êtres humains, puis la planète... Quand j'entends ça, je frissonne. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi. Vous savez pourquoi ? Parce que quand c'est des non-chrétiens, des adeptes de l'évolutionnisme, de l'inexistence de Dieu, de l'athéisme, qui commencent à nous dire qu'il faut sauver l'être humain, que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, mais c'est l'être humain qu'il faut sauver, que ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des églises seulement qui font ça, mais que c'est le monsieur, madame de tous les jours, toutes croyances confondues qui disent « Sauvons la race humaine ». Quoi ? Allô ? J'ai bien compris ? Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Et je pense qu'on le fait déjà. On le fait. On ne va pas sortir d'ici de culpabilité et tout ça. On le fait. Qu'on puisse simplement se rappeler, nous sommes dans des temps spéciaux, uniques, comme chaque période est unique. Ne nous laissons pas distraire et envahir par la crainte de tout ce que l'on entend à gauche et à droite. Et faisons en sorte d'aimer notre prochain lorsque c'est impossible même de le faire. Faisons en sorte d'être un témoignage. Faisons en sorte d'étendre la main. Et ça, c'est pas compliqué. C'est pas... Là, je suis pas en train de dire, à partir de demain, là, lundi matin, vous arrivez tous au travail, puis vous arrivez avec une grosse Bible dans vos présentations de conférences de boulot, et là, à la place de présenter tes chiffres, tu présentes le plan du salut. Non, non, c'est pas ça que je parle. Là, ils vont dire, mais t'es fou, quoi. Tu viens nous recruter ou c'est quoi ? Non, non, ce que les gens ils ont besoin de savoir, c'est pas qu'on cherche des gens à recruter, on a un cœur pour aimer et partager cet amour que nous avons connu. Et tout simplement. Et tout d'un coup, notre énergie, notre focus, elle est plus sur qu'est-ce qui va m'arriver, là, qu'est-ce que je peux faire pour aider d'autres personnes à traverser cette mer rouge qui est un symbole du baptême. D'ailleurs, en passant, on va avoir un parcours baptême au printemps. Allez voir Jean-Paul à la fin ou dès que vous pouvez, si vous êtes intéressé. Ma prière pour cette entrée, cette dernière portion de l'année, c'est de voir un grand nombre de personnes qui vont dire « Moi, je veux suivre ce Dieu de l'impossible. Je veux m'abandonner entre les bras du Seigneur. Je veux marcher avec Jésus. Je veux traverser. Je veux changer de régime de vie. Je veux être libre spirituellement. Je veux vivre ma foi. » Ça, c'est la prière que j'ai. Et je prie que tu puisses réaliser aujourd'hui que le Jésus que l'on prêche, que l'on chante, que l'on chérit, est un Dieu qui est vivant, qui aime, qui est présent, qui est là avec nous. Et la Bible nous dit, allez, faites des disciples. Puis là, on se dit, il faut que je sois un bon disciple. Ce n'est pas suffisant. La prière, ce n'est pas qu'on soit des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre Jésus. Soyons des faiseurs de disciples. Et là, on va passer de plus en plus à une autre vitesse. N'ayons pas peur. Là où tout s'effondre, Dieu est présent. Malgré tout, ça change. Ça n'a pas changé. Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Rappelez-vous, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Mais nous avons un secours dans la détresse. Et c'est là que nos yeux doivent être fixés. Nous avons une parole, les conseils du Seigneur dans ce livre. Apprenons à la connaître pour qu'elle fortifie nos âmes, nos émotions, nos pensées. Et là, on va commencer à briller. Si les musiciens peuvent simplement venir nous rejoindre et on chantait ce chant, ça me fait. Quand on a chanté Chante Alléluia au Seigneur, je pouvais voir un peuple nombreux dire oh yes, oui, c'est Dieu, oui, ça va mal, mais Seigneur, je crois que tu es là, je crois que tu es vivant. Et voir un peuple qui traverse son histoire, non, effondrement, pas effondrement, nous avons tous des réalités difficiles à traverser à un moment ou à un autre, mais oui, on veut chanter Alléluia. Peut-être tu veux, ça veut dire quoi, Alléluia ? Ça veut juste dire gloire à Dieu, honneur à lui. C'est lui qui est à l'honneur. C'est lui qui est à l'honneur. Simplement, il est fidèle. On a besoin de son esprit. Et il souffla pendant toute la nuit. Mais Dieu a fait beaucoup plus que ça dans le Nouveau Testament. Par son esprit, roi l'esprit, il souffle. Pas seulement une vie qui s'appuie sur la lettre, sur des textes, sur un récit, mais une vie qui est animée par l'Esprit de Dieu. Par cet esprit qui régénère, cet esprit qui conseille, cet esprit qui... Et plus on va avancer, il va y avoir trois démarcations. Une démarcation entre ceux qui ont placé leur foi en Jésus et ceux qui ne savent pas où se tourner. Puis la deuxième démarcation qui fait plus mal va être entre ceux qui sont chrétiens d'étiquette et ceux qui le sont de fonction, qui le vivent. À un moment donné, on va voir... Elle est où, ma foi? Encore une fois, avoir mal et pleurer ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Mais mon réflexe, il est où? Est-ce que je me tourne vers Dieu ou suis dans une religion parce que j'aime bien la musique, j'aime bien mes amis. Mais dans le fond, dans ma vie, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, pas vraiment. J'aimerais qu'on puisse se lever. On a dépassé le temps, mais c'est un message, je crois, qu'il avait besoin d'être entendu. Qu'on puisse se lever. Et simplement, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Je chante Alléluia au Seigneur. Et peu importe ce que tu vas entendre, peu importe ce que nous allons entendre dans les prochaines semaines, mois, années, peu importe, effondrement, pas effondrement, soyons unis les uns aux autres comme jamais, soyons attachés à Jésus et chante Alléluia au Seigneur et que le Seigneur puisse t'ouvrir un chemin. Amen. Ça va? J'espère que vous n'êtes pas dans le découragement, mais vraiment dans l'encouragement, parce que c'est le but. Le gros défi, c'est d'être réaliste, c'est d'être fataliste. Et volontairement, je n'ai pas saisi l'occasion de ce message pour lancer une invitation ou un appel, comme on peut le dire, à ceux et celles qui n'ont pas accepté de mettre leur confiance et leur foi en Jésus. J'ai fait exprès. Parce que je ne voudrais jamais qu'on dise qu'on s'est servi d'une situation sociétale pour manipuler les gens spirituellement. Je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin de brandir le drapeau de la peur pour faire en sorte que les gens suivent Jésus. Jésus n'a attiré personne par la peur, mais par l'amour. Du tout. Ceci étant dit, bon, je ne voulais pas jouer là-dessus, sur cette corde-là, sur la corde des émotions. Ceci étant dit, vous allez partir de ce lieu. Je connais certains d'entre vous, d'autres moins. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais fait ce pas. Vous devez mettre votre confiance. Mais quand les émotions vont tomber, on est loin de toute accusation manipulatrice spirituelle. Vous allez rentrer chez vous. Là, vous avez le libre cours de penser, de réfléchir, puis vous dire, est-ce que je ne veux pas suivre Jésus? Il m'a tellement aimé. Puis si c'est le cas, tu peux appeler un frère, une sœur, puis dire, écoute, comment ça se passe? Idéalement, il faudrait que ça se fasse tout de suite, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Non, mais le Seigneur marche avec toi, puis connaît ton cœur. Je vous encourage simplement à considérer la possibilité de placer votre confiance et votre foi dans ce Jésus qui vous ouvre un chemin là où c'est impossible, un chemin jusque dans l'éternité. Le Seigneur nous aime, nous fortifie. On va terminer avec quelques annonces rapidement. Toujours drôle de sauter à ce point-là comme ça. On a notre week-end d'église à Champfleury. Yes, je pense que c'est complet d'après ce que j'ai entendu. Il reste la place? Oui! Non, si, ouais, tu tombes bien. Tu tombes toujours bien.
Deux annonces pour la semaine prochaine. Vous allez de toute façon recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail, je pense, au courant de la semaine. Mais juste pour vous redire un peu les horaires, pour ceux qui sont inscrits pour le midi, on vous attend là-bas à partir de 11h. Et puis, le repas de midi, il est servi à midi et demi. Donc, même si vous n'êtes pas là à 11h, juste savoir que vraiment à midi et demi, comme nous sommes servis, le repas sera servi à midi et demi. Et pour ceux qui nous rejoignent dans la journée, à 17h, si je ne me trompe pas, il y aura un moment donc préparé tous ensemble. Donc, ça, pour ceux qui nous rejoignent dans la journée, si vous arrivez à venir donc pour 17h, pour être là pour le partage qu'on aura tous ensemble sur le thème balai masque qu'on a reçu dans le mail. Il n'y a pas d'autre voilà, surprise, du coup. Et puis, effectivement, c'est assez complet, mais s'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits et qui ont vraiment à cœur de venir, je vous laisse venir me voir ou m'écrire, et puis je crois qu'on peut toujours trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas quand même à venir me voir et puis qu'on regarde ce qu'on peut faire pour partager les chambres et pouvoir être encore plus nombreux. Super. On est 94 déjà.
Wow. Génial. Merci beaucoup pour le super travail qui est fait.
Oui, ça sera dans le mail, mais amener des petits gâteaux, des petites choses pour les goûter et puis la soirée.
Super.
Gros gâteaux.
Excellent. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a moyen de moyenner? Et puis, il y a des toilettes à l'extérieur, on peut dormir dehors, on peut se préparer au survivalisme, tout ça aussi. Super, un gros merci pour le super travail. Je sais qu'il y a un gros travail. Puis effectivement, on est dans la thématique balai masque. On va avoir des temps de partage interactif. Je vous en dis pas plus. Mardi 3 septembre, c'est la rentrée. Il y a des semaines qui sont passées. Oh, il n'y a rien. C'est parti, là. Ça recommence. Étude du livre de l'épître d'Éphésiens. Donc, la lettre d'Éphésiens, mardi le 3 septembre, ici à 20h, je pense. C'est ça, 20h. 14 septembre, le concert, c'est bien Lucia? 20h30 l'étude, merci. 20h30 pour l'étude. Concert Lucia, 14 septembre, je pense que c'est ça, samedi soir. À quelle heure? À 20h, donc ne manquez pas le 14 septembre. Et puis là, je sais qu'il y a plusieurs jeunes parents, peut-être plus les parents qui disent « Mais c'est quand que le groupe des jeunes recommence ?» Les parents veulent avoir congé, les jeunes s'ennuient aussi. Donc 21 septembre, c'est le lancement. Et sur ce, merci pour votre patience. Je sais qu'on a dépassé notre temps, mais qu'on puisse commencer cette rentrée avec l'assurance que nous avons à Dieu qui a toujours ouvert et fermé notre marche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour à Pascaline, Daniel, Jean-Daniel. Je sais qu'on a prié pour vous la semaine passée, mais nos prières continuent à vous accompagner encore une fois. Merci à tous qui nous avez visités aujourd'hui. À bientôt.